sommes à Saint-Antoine-l'Abbaye, de l'autre côté de l'Isère, en Isère, pour présenter les activités de la communauté de l'Arche et plus spécifiquement de la maison d'accueil et de formation. C'est Magali Audion qui nous présente la communauté et ses activités. Bonjour Magali.
Bonjour Céline.
Alors est-ce que tu peux nous redire en deux mots un peu comment ça fonctionne la communauté, qu'est-ce qui s'y passe ?
Oui, alors beaucoup de choses. Donc la communauté ici à Saint-Antoine-l'Abbaye, elle a été créée en 1987. Elle fait partie du mouvement de l'Arche qui existe depuis l'après-guerre, qui n'est pas à ne pas confondre avec l'Arche de Jean Vanier. C'est un autre mouvement, mais pas le même fondateur. Donc le fondateur de notre Arche à nous, c'est Lanza del Vasto. On peut dire en gros que c'était un philosophe et une espèce de visionnaire qui, avec d'autres personnes et avec sa femme aussi, ont fondé des communautés sur le modèle de un peu des ashrams de Gandhi. En fait, il était très inspiré par la non-violence gandhienne. Et donc, c'est la non-violence qui anime notre vie de façon très générale, avec à la fois la dimension du rapport à la nature. Par exemple, on est végétarien. Du rapport aux relations, aux êtres humains, à comment ça fonctionne, à la violence qui se passe entre nous, dans les groupes, tout ça. Le rapport à l'engagement dans la société aussi, avec un certain nombre d'actions militantes, voire de désobéissance civile, qui peuvent être portées par notre mouvement, notre communauté. Et puis tout ce qui est rapport à soi-même aussi, l'approfondissement de la connaissance de soi et la dimension spirituelle qui fait aussi pleinement partie de notre vie. Donc on essaie de mettre tout ça ensemble en habitant dans cette ancienne abbaye, donc dans une grande, grande maison. On est entre 40 et 60 par jour à vivre au son des cloches, comme on vient d'entendre derrière moi. On y habite, on travaille sur place, donc pour animer nos différents projets dont je vais parler. Et on a une vie, en fait, ensemble autour du partage des repas, d'un certain rythme, de beaucoup de réunions. Et puis, on partage aussi le chant, la danse. On a toute une culture particulière qui nous relie et sert à faire du lien et à essayer de faire vivre la non-violence, malgré tout ce que ça comporte de promiscuité et de défis de vivre tous ensemble comme ça, avec les enfants. Enfin, voilà, on est une communauté aussi intergénérationnelle.
J'allais dire, c'est un sacré défi à l'heure où, au niveau sociétal, on est plus sur l'individualisme, sur plus le repli sur soi et beaucoup de violence dans notre monde, surtout en ce moment. C'est un sacré défi au quotidien, j'imagine, de partager ces valeurs et de les incarner dans les gestes, dans les actes et dans le vivre ensemble.
Oui, alors on est dans le monde, hein, on traverse les mêmes difficultés, les mêmes enjeux, etc. C'est vrai que nous, on cumule beaucoup de choses au même endroit, c'est-à-dire qu'on va être à la fois entre nous cohabitants, voisins, co-décideurs, collègues, mais aussi on fait la fête ensemble et on a des temps de prière ensemble et tout ça. Donc tout ça réunit autour des mêmes personnes. Eh ben, ça fait pas mal de défis. Et puis on a aussi tout ce défi parce qu'on est un groupe très ouvert vers l'extérieur. On fait beaucoup d'accueil de types d'accueil différents. Donc accueillir, recevoir plein de personnes différentes. Je pense qu'on reçoit des centaines de personnes par an qui viennent chez nous juste des fois pour quelques jours, pour profiter de notre maison d'accueil, ou alors qui viennent vivre avec nous l'expérience communautaire, des fois jusqu'à une année. Et ça fait des belles rencontres aussi en lien avec tout ce qui se passe ailleurs dans la société. Et on fait partie d'un réseau qui s'appelle les Oasis et qui qui réunit tout un tas d'autres expériences collectives à visée écologique, sociale, relationnelle. Et c'est grandissant, hein. C'est un réseau qui a de plus en plus, qui parle beaucoup aux gens, en effet, par rapport à cet individualisme croissant.
Et si on met un petit coup de projecteur sur la Fève, qui est donc l'association portée par vous, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ?
Oui, alors la FEF, c'est un des projets de la communauté qui a été créé en 2010. Et l'idée, au départ, c'était vraiment, après avoir beaucoup travaillé pour faire vivre cette maison d'accueil, pour aussi travailler les jardins et tout, puisqu'on essaie d'être assez autonome, pas complètement, mais au niveau de la production de légumes, fruits, etc. Il y avait une vraie volonté de transmettre les fruits un peu de cette expérimentation du vivre ensemble. Avec un projet qui permette de la formation, de la transmission, du témoignage, du partage d'expériences. Et donc, c'est la FEF qui a été créée, qu'au départ s'adressait surtout à des jeunes adultes qui souhaitaient vivre une vie collective. Et donc, il y a eu plusieurs années comme ça autour de cette dimension-là. Et puis, petit à petit, ça s'est ouvert à d'autres types de publics qui avaient envie de découvrir le vivre ensemble, de savoir si ça pouvait coller pour eux, d'aller dans un habitat participatif, par exemple, ou alors des gens qui avaient envie d'apprendre la communication non-violente. Enfin, simplement, peut-être des différents aspects du vivre ensemble selon les besoins et les rythmes de chacun. Et donc la FEV maintenant promeut toute une série d'activités, donc soit des stages qu'on reçoit chez nous autour aussi du savoir-faire manuel, par exemple autour du pain ou de savoir faire ses confitures, valoriser les récoltes du jardin, parce que ça c'est très gandien aussi. La dimension autonomie économique. Et puis des aspects aussi, alors on essaie de développer des projets plus porter sur la vision, une vision un peu politique. Par exemple, on essaie de travailler sur la question des violences systémiques et de ce qui se passe à l'intérieur d'un groupe, chez nous, ou avec des gens qu'on reçoit, en termes de tous les biais inconscients qu'on peut charrier les uns les autres en rapport avec si on est un homme, une femme, si on est une personne blanche ou une personne racisée, si on a plus ou moins d'argent ou selon notre âge, etc. Donc c'est ça qu'on appelle les oppressions systémiques. Et donc cette dimension-là, on essaie de travailler ça déjà chez nous, hein, et puis de partager ça aussi, de voir trouver des partenaires pour cultiver cette autre forme de la non-violence dans la société avec différents publics, quoi.
C'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que cette question des discriminations ou des oppressions systémiques, c'est ce que tu disais, vous êtes dans le monde, vous êtes en communauté, mais vous n'êtes pas en dehors du monde, et en fait, elles vous traversent aussi, et du coup, il y a une nécessité à les mettre au travail en s'aidant peut-être d'apports extérieurs pour pouvoir les travailler au sein du groupe.
C'est ça, on travaille pas mal depuis le début de la FEV, mais aussi dans l'Arche, avec beaucoup d'intervenants extérieurs en fait, qui nous accompagnent, nous, en tant que groupe, sur différents aspects de notre culture, de nos besoins, et puis qui interviennent aussi directement auprès de publics qu'on fait venir chez nous à cette occasion-là. Mais on fait aussi, la FEV aussi propose des interventions à l'extérieur, donc notamment on a tout un réseau d'intervenants, de gens qui ont vécu chez nous pendant un certain temps et qui, à partir de ce bagage-là et d'autres expériences ou formations, vont parler du vivre ensemble, de la coopération, de la bienveillance ou des conflits à l'extérieur, soit dans d'autres collectifs, par exemple, qui ont besoin de médiation, de choses comme ça, soit dans les écoles aussi, pour prévenir de tout ce qu'il peut y avoir comme violence au sein de l'école, notamment autour du harcèlement scolaire, qui est une grosse demande en ce moment. Et voilà, avec des outils souvent ludiques, la pédagogie de la FEV, elle est très participative. On essaye de faire pas seulement appel à de l'enseignement théorique, même assez peu, mais plutôt vivre des expériences, partir du vécu des personnes, partir de jeux aussi, donc des jeux coopératifs par exemple, pour mettre les gens en action pédagogique, c'est-à-dire se rendre compte par eux-mêmes dans des situations, dans des exercices, de ce que ça fait, comment les mécanismes de la violence et comment on peut trouver des façons de mieux relationner ensemble, par exemple, si on prend ce sujet-là.
Et en ça, vous êtes un peu un mouvement d'éducation populaire, on pourrait dire.
Oui, la FEV se reconnaît comme association d'éducation populaire, voilà, à notre modeste mesure, parce qu'on n'est pas spécialiste de tout, loin de là.
Et alors, si on plonge un peu, parce que là, vous avez un programme 2024 assez fourni, avec beaucoup de rendez-vous qui s'étalent sur toute l'année, de février à décembre, il me semble. Le mois de janvier était un peu un mois de repos, peut-être, ou en tout cas de préparation. On ne va pas pouvoir donner toutes les dates, mais on va mettre un coup de projecteur sur plusieurs formations. Et peut-être un rendez-vous, là, en février, qui est nouveau dans votre programme, c'est la formation au premier secours en santé mentale, autrement appelé PSSM, pour devenir secouriste en santé mentale. De quoi il s'agit là sur cette formation ?
Oui, alors cette formation, elle nous est proposée par quelqu'un qui a vécu chez nous et qui a fait la formation FEV il y a quelques années. Et c'est une formation très institutionnelle hein, qui est liée à des financements ou à des impulsions publiques en tout cas. Et je trouve ça intéressant de la souligner parce qu'on est vraiment dans une période où il y a beaucoup de souffrances psychologiques qui s'expriment. Et donc, y a plusieurs façons de répondre à ça. Et là, l'idée, c'est vraiment que tout un chacun puisse devenir secouriste en premier soin, en santé mentale, quand il fait face à des problèmes psychologiques de quelqu'un, de proche, par exemple, ou ne serait-ce que dans la rue, etc. Nous, ça nous est arrivé juste ce matin d'avoir à gérer quelqu'un en grave difficulté psychologique. Et malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent, et on devrait, comme tout sujet qui concerne la violence et la souffrance des humains, être de plus, tous, toujours nous former plus, en fait, à être plus soignants les uns vis-à-vis des autres. Donc ça fait partie des possibilités. Et d'ailleurs, il y a des dispositifs d'aide financière pour notamment les bénévoles qui travaillent dans des associations pour financer cette formation-là.
Donc peut-être on rappelle les dates de cette formation au premier secours de santé mentale.
Oui, c'est très bientôt parce que c'est le week-end du 17-18 février.
Et donc là, ça peut aider effectivement, donc ça peut être au travail ou dans son contexte amical, militant, professionnel, de quand quelqu'un, je sais pas, décompense ou en tout cas il y a une crise émotionnelle qui se passe, avoir les bons réflexes, la manière de prendre ça en charge, quoi. On pourrait dire ça.
Exactement.
Alors, on continue à dérouler un peu le programme avec une autre formation qui est nouvelle dans votre programme. Il s'agit du process work, mais de quoi s'agit-il ?
Oui, c'est intriguant. Bon, c'est un anglicisme, on n'aime pas toujours ça, mais disons que c'est difficile à traduire. Process work, donc, c'est une approche que creuse la FEV depuis quelques temps, mais pas seulement la FEV, hein, c'est quelque chose qui se développe beaucoup justement dans les différents écolieux et oasis. C'est un travail de groupe qui mise sur le fait que la traversée des conflits va apporter plus de liens entre les personnes, plus de connaissances, et que notre premier réflexe face à des conflits ou à des difficultés dans un groupe ou des difficultés relationnelles, c'est plutôt de les fuir, de les occulter ou en étant trop prudent, de pas arriver à aller s'asseoir au cœur du feu, comme dit le fondateur, le créateur du processeur qui s'appelle Arnold Mindel. Et du coup, là, c'est une invitation vraiment à aller explorer les endroits où se jouent vraiment les conflits, des fois des endroits un peu cachés, et du coup, à se confronter en fait aux réalités de ce qui se passe dans un groupe, des rapports de pouvoir qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, et aussi les liens qu'il peut y avoir entre ce qui se passe dans le monde, ce que je vis moi à l'intérieur de moi et ce que je vis avec les autres. Et ça, c'est très original dans cette approche du process work, dont ça se passe dans des groupes assez réduits où il va y avoir des mises en situation où, à partir de thèmes qui émanent du groupe, on va essayer d'aller explorer ça et de voir là où ça frotte, en fait, et d'arriver à mettre de la conscience, en fait, sur ce qui se passe en termes conflictuels. Et voilà. Et c'est vrai que je peux témoigner pour l'avoir fait que c'est un peu une illustration du conflit qui rapproche, quoi, qui permet aux gens de mieux se connaître, de mieux se comprendre entre eux et eux-mêmes. Et d'avancer chacun dans son propre travail et puis dans le travail de groupe. Je pense que c'est très précieux pour comme beaucoup d'outils qui existent et qui sont très riches dans les collectifs, dans les vies communautaires. On a besoin de méthodologie, en fait, des fois, pour savoir comment affronter les vraies choses, les voir en face. Et parce que si on met le couvercle sur les problèmes qui arrivent ou qui pourraient arriver, même des divergences d'opinion de base, on risque l'explosion.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un stage de gestion de conflit ou pas tout à fait ?
Alors, gestion, je crois que le mot n'est pas vraiment utilisé. On va plutôt parler de traversée du conflit ou d'exploration du conflit. Ouais. Parce que la gestion, c'est une approche qui est peut-être un peu trop rationnelle. Et là, il y a l'idée de vivre les choses et les vivre avec son corps et pas que avec sa tête, d'aller se laisser s'exprimer aussi les émotions ou certains langages corporels, apprendre à voir ça, en fait. parce qu'en général, on aborde ces questions-là plutôt avec notre tête, et notre tête, elle ne sait pas tout.
Donc c'est un stage qui s'adresse, par exemple, à des militants-militantes ou à des bénévoles associatifs ou à des professionnels ?
Ça peut vraiment s'adresser à tout le monde parce que ça regarde aussi toutes les relations interpersonnelles, donc tout le monde est concerné. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont dans des dynamiques de vie collective, militantes ou pas. Il y a aussi, enfin, ces formatrices-là, elles ont l'habitude de travailler auprès des entreprises, hein, donc c'est après, elles s'adaptent aussi au cas dans lequel elles arrivent, quoi.
Donc on rappelle les dates ?
Oui. Donc c'est aussi du 16 au 18 février avec Sophie Debrias et Caris Kindler.
Et une autre formation en février qui est nouvelle également au programme et dont tu avais peut-être envie de parler.
Oui, alors il y a la formation qui s'appelle « Habiter son corps dans une perspective émancipatrice ». Donc c'est Julie Jolivet et Emmanuel Dontenville qui l'animent. Elles ont déjà animé des stages qui ont l'originalité d'allier l'expression artistique, enfin pas artistique, mais l'expression avec des matériaux plastiques comme le collage, l'écriture, le dessin, avec la pratique du yoga. Elles ont chacune une expérience dans ces deux sphères, et donc elles relient les deux. Et là, pour cette année, il y a vraiment une particularité d'aller à travers ces deux supports explorer notre propre rapport à notre corps. Et surtout, poser un autre regard dessus qui soit un peu plus léger par rapport à toutes les injonctions sociétales qu'on peut avoir en tant que femme, parce que là, c'est un stage qui s'adresse spécifiquement aux femmes et aux minorités de genre, hein, mais de pouvoir s'approprier une vision plus émancipatrice, en fait, de notre propre corps, ou éventuellement aussi du corps des autres, à travers quelque chose de très sensoriel, en fait, donc le yoga et puis ce qu'on peut faire avec nos mains par le dessin, l'écriture, le langage visuel ou des mots, quoi.
Donc un stage qui s'adresse principalement aux femmes et aux minorités de genre, et c'est du 23 au 25 février, avec qui mêle des activités créatives avec cette approche critique, comme tu l'as présentée. Et puis d'autres stages en avril ?
Oui, alors je peux présenter un des stages de la FEV, qui est celui que j'anime moi-même, qui s'appelle « Changer de vie, 4 jours d'aide au discernement ». Donc ça, c'est un stage que j'ai proposé il m'est venu suite au Covid, où il y avait beaucoup de gens qui se posaient la question du sens de leur vie et quel choix de vie ils faisaient aussi. Et notamment pas mal de gens appelés à explorer des formes de vie plus collectives comme ici à l'Arche. Et donc c'est un stage qui aide les gens un peu qui les accompagne sur ce chemin de discerner où ils en sont dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont envie vraiment de prendre comme grande décision ou pas, et d'apporter différents outils assez intuitifs mais aussi un peu mentaux, enfin toujours avec une approche sur différents plans, aussi un petit peu corporelle. Voilà, et ça peut se faire seul ou en couple aussi, on a régulièrement des couples qui font ce stage. C'est en petit groupe, donc la force du groupe et des partages de groupe sont très importants dans ce stage aussi, et ça c'est vrai en général dans notre vie ici à l'Arche, c'est que c'est vraiment aussi en relationnant avec des gens même par hasard avec qui on boit un café au réfectoire qu'on va tout d'un coup trouver le miroir de nous-mêmes et avancer sur son chemin juste en partageant un bout de notre vie, quoi.
Et là, c'est un stage un peu plus long que vous proposez pour avoir le temps de déplier un peu tout ça. C'est 4 jours ?
Oui, ça demande vraiment à se poser. Avant, c'était 3 jours. Et là, j'ai proposé 4 jours pour qu'il y ait plus de temps de décantation aussi et que ça ne soit pas trop dense.
Donc, si vous êtes concerné par cette histoire de changer de cap, de faire le point, de remettre du sens dans sa vie, qui peut concerner pas mal de gens, 4 jours d'aide au discernement du 3 au 7 avril avec toi, Magali. Et un autre événement en avril ?
Oui, alors un autre sujet qui est très d'actualité en ce moment et notamment qui touche malheureusement beaucoup aux communautés et aux communautés spirituelles particulièrement, c'est le thème des risques d'emprise, hein. et d'abus, de pervers, pervers narcissiques, enfin voilà, tout ce qui est dans ces mécanismes-là relationnels toxiques. Donc on a une amie de la communauté de longue date qui s'appelle Lita Basset, qui est théologienne suisse, qui est assez connue pour différents livres, et notamment un sur ce sujet, et elle, donc, elle propose un séminaire pour présenter les ressources spirituelles qui nous permettent d'aborder cette question de l'emprise et la perversion. Et je trouve son angle est très intéressant parce qu'évidemment, elle aborde les choses du point de vue des victimes. Hein. C'est une spécialiste de l'accompagnement spirituel, mais avec beaucoup de connaissances et d'expériences au niveau psychologique. Donc, elle fait le lien entre les deux. Mais ce qui est particulier, c'est qu'elle va dire que quelque part, chacun de nous a un potentiel de perversion. Et c'est pas un truc qui arrive pathologiquement une fois de temps en temps quand ça tombe sur la mauvaise personne, mais on a tous des petites tendances de séduction et de manipulation et tout ça, et que finalement des fois, bah, quand il n'y a pas de bribes à ça, quand il n'y a pas de contrôle de ça, quand il n'y a pas de conscience de ça, eh ben ça peut arriver à de la violence et à des phénomènes d'emprise sur les personnes. Donc elle s'adresse, je pense, à la fois aux victimes réelles ou potentielles, et elle s'adresse aussi à chacun de nous sur les risques de petites dérives là où on a du pouvoir et de l'autorité, quoi.
Donc cette nouvelle formation, Emprise et perversion, des ressources spirituelles inattendues avec Lita Basset, c'est les 13 et 14 avril. Et un autre stage en avril, un sujet qui concerne pas mal de monde et une mouvance aussi actuelle, c'est la question de l'habitat participatif. Qu'est-ce que vous proposez sur cette question ?
Alors, l'habitat participatif, c'est un mode de vivre ensemble qui se développe beaucoup, notamment en zone urbaine. Donc, c'est assez complémentaire du mode de vie rural, de ce qu'on appelle plus les écolieux, ou bon, nous, ça va aussi dans le sens des communautés. Il y a une formatrice de la FEV qui s'appelle Audrey Jiquel et qui propose un stage très court, mais bien conçu pour aider les gens à mûrir leur projet d'habitat participatif. Donc, ça, c'est un stage qui commence le 29 avril au soir avec une conférence gesticulée qu'elle anime elle-même, et puis 2 jours de formation derrière. Et cette même semaine, en fait, la FEV propose aux gens qui le souhaitent de venir toute une semaine, en fait, incluant ce stage-là, suivre une immersion plus globale sur le thème de vivre ensemble, pourquoi pas moi. Donc plus pour aider les personnes à comprendre un peu les enjeux généraux du vivre ensemble avec cette facette particulière de notre vie communautaire à l'Arche. Et c'est une immersion dans le sens où on propose une participation aux activités de la maison sous différents angles pour découvrir en fait notre forme de vie. Alors j'en profite pour dire que la communauté accueille toute l'année des séjours, ce qu'on appelle des séjours communautaires, donc des gens qui viennent expérimenter notre vie avec nous. Donc toute l'année on peut venir et puis découvrir notre vie en nous immergeant simplement, voilà, on est logé, nourri, et puis en même temps on participe à toutes les activités à la fois culturelles, aux différentes tâches, aux services, etc. Et ce stage-là, il rentre dans ce cadre-là des séjours communautaires, mais avec une couleur particulière autour d'aider les gens à réfléchir à leur projet vraiment de vie collective, et avec des apports pédagogiques en plus de la formation que propose Audrey Jiquel.
Et pour ceux et celles qui connaissent pas les conférences gesticulées, parce que tu disais que ça commence le 29 avril par sa conférence à elle, une conférence gesticulée, c'est un outil d'éducation populaire qui est une forme spectaculaire pour présenter un sujet, mais en partant du vécu de la personne, ce qu'on appelle le savoir chaud, mêlé à des apports théoriques, ce qu'on appelle le savoir froid. Et donc cette forme spectaculaire, qui est d'ailleurs une forme qui se développe pas mal, hein, ça fait une dizaine d'années que pas mal de gens font des conférences gesticulées. Et là, elle fait une conférence gesticulée sur l'habitat participatif. Et on continue avec un petit mot sur une nouvelle formation aussi à votre catalogue, avec un titre qui interpelle pas mal, puisque c'est « Quand les dragons prennent leur envol ». Mais de quoi s'agit-il ?
Alors, je ne connais pas spécifiquement le contenu de ce rendez-vous parce que ce n'est pas nous, que la maison, qui l'organisons. Mais j'en parle parce que le sous-titre, c'est l'art de la non-violence dans le mouvement zen vietnamien. Et donc, c'est vraiment l'idée d'aborder l'expérience de la non-violence sous l'angle, là, particulièrement en lien avec l'expérience de Thich Nhat Hanh. puisque donc c'est Datfan et Carole Angevin qui animent ce stage. Et Datfan, c'était un disciple, on va dire, de Thich Nhat Hanh. Et donc, il propose vraiment de transmettre un petit peu cette expérience de l'action non violente politique, en fait, mais aussi de la posture générale spirituelle dans cette mouvance vietnamienne.
Et donc, c'est du 8 au 12 mai avec ces deux personnes pour découvrir l'art de la non-violence dans le mouvement zen vietnamien. Avec une autre formation sur la question spirituelle qui s'appelle Habiter sa dimension spirituelle du 13 au 16 juin cette fois-ci, donc on passe au mois de juin. De quoi s'agit-il?
Alors c'est un nouveau stage qui est proposé donc par Margalida Reus et Maria Legland. Ce stage, il est c'est peut-être presque plus une retraite qu'un stage. L'idée, c'est vraiment, ça fait partie de ce que... Alors Margalida Reus, c'est une des cofondatrices de notre communauté, elle vit encore ici. Et Maria Legland, elle a vécu ici assez longtemps. Et elles ont vocation, dans ce stage, à transmettre un petit peu de notre culture spirituelle à large, qui est à la fois une culture qui s'articule autour de pratiques chrétiennes, mais qui est surtout... L'idée, c'est surtout d'aller voir la spiritualité un peu comme état de vie intérieure et pratique de vie intérieure, de prendre soin de son soi et de son intériorité. Et donc le sous-titre, c'est déployer sa vie intérieure seule, en couple et en groupe. Et l'idée, c'est de voir aussi comment, à partir de l'expérience de notre communauté, il y a des pratiques, des petits rituels et surtout une posture, une façon de relationner avec soi-même et avec tout ce qui nous dépasse, qui peut être transmise, témoignée et expérimentée lors de ces deux ou trois jours chez nous.
Donc voilà, du 13 au 16 juin, ici à l'Arche. Et puis cet été, des stages, on pourrait dire, un peu plus habituels dans votre catalogue, notamment autour de la coopération.
Oui, alors l'été, c'est là où on accueille beaucoup de stages qui sont plus d'une semaine que sur un week-end. Hein. C'est entre 4 et 7 jours. Et on a beaucoup de stages autour des pratiques corporelles comme le yoga, le qigong, mais aussi du chant ou certaines expressions artistiques et développement personnel. On a aussi des approches plus philosophiques ou spirituel. Mais là, on peut mettre l'accent sur un stage qui est un peu différent, qui est proposé par la FEF depuis plusieurs années, qui s'appelle Jouer, Bouger, Coopérer, et qui est destiné vraiment à la fois à des adultes et à des enfants, en tout cas à partir de 8 ans. Ce qu'on propose, c'est des vacances ludiques et apprenantes pour passer du temps entre enfants et adultes, parents, grands-parents, mais pas forcément avec ses enfants. Ça peut être juste des gens qui n'ont pas d'enfants et qui ont envie d'apprendre. Et là, l'idée, c'est d'apprendre à relationner à travers des jeux coopératifs. Donc, il y a une initiation à la communication non-violente hein, qui reste un des fondements de notre culture relationnelle. Et donc c'est animé par Karine Chausson, Guillaume Legland, qui tous deux ont vécu à la communauté de l'Arche, même Guillaume assez longtemps, et Amandine Berthaud, qui est formatrice en communication non violente. Et donc tous les trois, ils forment un super trio pour faire passer des vacances donc à la fois dans la détente et tout, parce qu'on est un bel endroit à Saint-Antoine-l'Abbaye, donc il y a aussi beaucoup de choses à faire, à visiter et à se promener autour de nous, mais aussi avec pas mal d'ateliers pédagogiques où on va pouvoir expérimenter des choses, jouer ensemble et puis en parler aussi pour voir ce qui se joue à travers ces exercices et comment en fait c'est pas toujours facile de communiquer les uns avec les autres et de comprendre ce qui se passe entre les petits, les grands, etc. Donc voilà, et j'en profite pour dire que c'est pas facile toujours de venir en stage et donc tous nos stages sauf exception sont en résidentiel, donc ça a un certain coût et on en a bien conscience. Et donc, on a plusieurs dispositifs pour permettre aux gens de venir chez nous à des prix réduits. On a des réductions en fonction des revenus. Mais on a aussi créé depuis l'année dernière un fonds on appelle ça les lits suspendus. Donc, c'est les gens qui viennent chez nous qui peuvent donner plus que ce qu'ils doivent. Et cet argent est mis en réserve pour pouvoir financer d'autres personnes qui ont besoin d'aide pour financer leur séjour. Il ne faut vraiment pas hésiter à le demander parce que pour l'instant, il y a plus d'apports que de demandes. Et donc, j'en parle vraiment pour que ça soit, notre maison puisse être ouverte à tous, en fait, et toutes, dans la mesure voilà, des possibilités. Et on est aussi, depuis cette année, labellisé VACAF. Donc, ça veut dire que les personnes qui bénéficient de l'aide de la CAF pour leurs vacances en famille peuvent utiliser ce dispositif pour séjourner chez nous. Et c'est vrai que c'est très aidant. Et nous, ça fait sens pour nous de nous mettre en lien aussi avec cette vocation sociale voilà, que la CAF a.
Et au mois d'août, il sera question plutôt de cuisine.
Alors, entre autres, on aime bien varier les thématiques. Et c'est vrai que notre maison, pour ceux qui la fréquentent, est très connue pour la qualité de ses repas, qui sont végétariens, d'inspiration très diverse au niveau culturel. Et ça fait vraiment partie des socles de notre réputation. et donc, on propose trois stages en août. Il y a un atelier de cuisine moyenne-orientale végétarienne qui est proposé par une amie syrienne qui s'appelle Abir El-Shehadeh. Voilà, et juste après, un atelier de cuisine mexicaine qui est proposé par Maria Martinez. Et voilà, toutes les deux, vraiment, on fait non seulement de ces cuisines-là, elles les connaissent bien parce que c'est celle de leur patrimoine familial et culturel à elles, mais elles ont aussi l'habitude de faire ces cuisines-là à échelle collective et même communautaire, puisqu'elles ont toutes les deux vécu chez nous. Et donc, c'est aussi une manière de réfléchir à comment on fait en grande quantité, pas que en toute petite, quoi, là.
Et donc, pour l'atelier de cuisine moyenne-orientale végétarienne, c'est du 6 au 8 août. Et pour l'atelier de cuisine mexicaine, c'est juste après, du 9 au 11 août. Une autre information pour le mois d'août ?
Oui, bah, le troisième stage qui est en lien avec la cuisine, c'est un stage de la fève pour valoriser la production, enfin ce qu'on peut faire avec les récoltes du jardin. Donc ça s'appelle Récolte, cuisine, conserve, partage et dégustation avec Chantal Loachmol, donc une habitante engagée dans la communauté depuis très longtemps et qui va directement présenter comment on peut faire notamment pas mal de bocaux à partir des cultures potagères, quoi.
Et ça, ce sera du 27 au 31 août pour bien finir l'été qui sera peut-être abondant en fruits, légumes et autres. Allez, un coup de projecteur sur le dernier stage dont on avait envie de parler, qui se passe plutôt aussi en août en fait, à la fin du mois d'août. Du 26 au 31 août, il s'agit d'une retraite éco-spirituelle.
Oui, alors l'éco-spiritualité, c'est quelque chose qui se développe beaucoup pour faire le lien entre les spiritualités d'ailleurs diverses et variées, hein, selon les traditions des uns et des autres, ou aucune tradition d'ailleurs, et le rapport à la nature et à l'écologie. Et donc, c'est la première fois qu'on va accueillir ce stage qui s'appelle « Réenchanter notre regard sur le vivant » et qui est animé par trois personnes qui sont autrices et penseuses et praticiennes aussi de l'éco-spiritualité depuis plus ou moins longtemps. Donc notamment Michel Maximegger, qui est aussi un théologien suisse d'ailleurs, et qui est assez connu pour ses livres sur ce sujet-là et sur d'autres. Et Christine Christophe, qui est quelqu'un qui a beaucoup aussi, qui fréquente beaucoup les lieux éco-spirituels, les lieux collectifs éco-spirituels. Donc voilà, c'est un stage qui est très prometteur et très en lien avec notre culture écologique et du vivre ensemble ici à l'Arche.
Alors si tous ces stages dont vous avez parlé, ça égaye votre curiosité et vos envies, que ce soit pour là maintenant, pour finir l'hiver ou ce printemps ou cet été ou même encore à la rentrée, toutes les informations sont à retrouver sur votre site internet ou alors on peut peut-être vous contacter. Est-ce qu'on peut avoir les contacts ?
Oui, alors notre site internet, c'est arche-sta.com, STA comme Saint-Antoine. Et le site de la Fève aussi, plus spécifiquement pour tout ce qui est lié à aux formations en lien avec le vivre ensemble et puis aux problématiques qui nécessiteraient des interventions à l'extérieur de chez nous, dans des collectifs ou dans des écoles ou dans des associations, des centres culturels, voilà. Donc le site de la Fève, c'est fève-nv.com. Après, vous pouvez aussi nous contacter si vous n'avez pas Internet au 04 76 36 45 97.
Eh bien, ça donne pas mal d'espoir sur d'autres manières d'être en lien, d'autres manières d'habiter notre monde et de cultiver aussi le rapport à soi. Merci beaucoup Magali pour nous avoir parlé et présenté tout ça. Et longue vie à ces stages et à l'Arche.
Merci à toi Céline.